Dans la salle des bouilloires du domaine Labranche, il arrive que l'on allume les feux même en plein été. J'en ai moi-même été un peu surpris.
Bien sûr, là, on est en octobre, ça bouille pas, là.
Bien, en fait, il y a deux utilités maintenant à l'évaporateur. On réussit à le valoriser autrement. Alors, au lieu de concentrer l'eau d'érable en sirop d'érable dans le temps des sucres, on l'utilise également l'automne pour le cidre de feu. Je m'explique. Au lieu que la concentration du cidre se fasse par le froid, donc la cryoconcentration que l'on appelle, qui est le mou qui se fait concentrer par le froid, ou la cryoextraction, qui est la pomme qui subit les gels et dégels pour créer le cidre de glace. Dans le cas présent, pour l'automne, c'est le cidre de feu. C'est-à-dire, c'est la pomme qui est cueillie fraîche à l'automne, elle est pressée, et c'est le mou de pomme, c'est le jus, que l'on fait ici évaporer, concentrer, bouillir dans les pannes à sirop d'érable. Donc, c'est vraiment le jus de pomme qui est autour de 10 % de sucre, que l'on vient concentrer à environ à 35 % de sucre. Lorsque le mou a bien tempéré, on rajoute les levures, s'ensuit une fermentation pour obtenir le fameux cidre de feu.
Le goût est différent un petit peu.
Tout à fait. En fait, on est complètement ailleurs. Le cidre de glace, c'est un petit peu plus sur la fraîcheur, des arômes, disons, un peu plus légers, un peu plus floral, un peu plus fruité léger. Tandis que le cidre de feu, on a un côté un petit peu plus concentré. On a un côté un peu caramel, épicé. On est vraiment sur un côté un peu écorce d'orange. Le cidre de feu, on l'offre froid ou on l'offre chaud. Nous, la façon qu'on le présente pour la cabane à pommes, c'est qu'il y a donc un accord mets et vins qui est proposé avec chacun des services. Le dessert s'accompagne du cidre de glace qui est bien froid. Et puis finalement, le dernier et troisième dessert, c'est la tire de pommes. On invite les clients à se lever, à se rendre à la salle de rassemblement pour aller prendre le troisième dessert. Et donc, c'est la tire de pommes que l'on accompagne avec le cidre de feu qui est chaud. Alors, ça fait penser un peu au bon vin chaud qu'on peut retrouver dans le temps des fêtes, parfois en Europe ou en France ou ailleurs. Alors, la tire de pomme, c'est quoi? Encore là, c'est le mou que l'on fait concentrer, évaporer jusqu'en sirop, puis qu'on apporte encore plus loin l'ébullition pour se rendre jusqu'en tire. Alors, que ce soit l'érable ou la pomme, c'est possible de concentrer les sucres et se rendre en tire sans aucun ajout, simplement le mou de pomme. Et nous, étant donné qu'il n'y a pas de neige l'automne, on réfléchissait à une façon originale de présenter la tire de pomme. Alors, c'est un quartier de pomme, c'est la Polaret en général que l'on utilise, et que l'on vient congeler. Et donc, c'est la pomme qui est congelée, qui, elle est vraiment bien trempée dans la tire de pomme qui est chaude. Alors, le contact de la pomme gelée avec la tire qui est chaude, la tire de pomme toujours, et elle vient enrober complètement le quartier de pomme et elle vient figer presque instantanément dessus. Donc, on invite les clients à prendre une demi-bouchée pour bien goûter le contraste de la pomme gelée avec la tire qui est chaude. C'est pas très sucré, c'est quand même sur la fraîcheur parce qu'il n'y a pas beaucoup de cire. Et la deuxième bouchée, on invite le client à l'accompagner avec le cidre de feu qui est chaud. Ça fait partie du troisième dessert. Alors là, il y a un deuxième contraste entre le froid et le chaud, puis ça se termine sur une belle note. C'est assez particulier, je pense que c'est la façon qu'on réussit à se démarquer. Puis pour nous, la tire de pomme, c'est un peu l'emblème de la cabane à pommes, à même titre que la tire d'érable l'est pour la cabane à sucre.
Donc, la salle ici est pas complètement inactive. Là. Hors saison des sucres, vous l'utilisez pour le cidre de feu. La grosse période intensive, là, c'est vraiment au moment des coulées d'eau d'érable.
Complètement. Les impondérables du temps des sucres, c'est bien particulier. L'eau d'érable, étant donné que c'est bien vivant, c'est gorgé de nutriments et de bactéries et tout ça, j'entends toujours mon père, même mon grand-père qui disait « lorsque ça coule, ça bouille ». Alors, automatiquement, ça veut dire que l'eau ne se garde pas très longtemps et il faut rapidement la concentrer, la faire évaporer sur le feu pour qu'elle puisse changer en sirop pour que là, rendu en sirop, qui est très, très sucré, réussit à ce moment-là à avoir une belle conservation qui peut durer pendant plusieurs années.
Vos fabrications de vin d'érable, vous en produisez à l'année longue de ça?
Oui, mais on essaye toujours de quand même orienter nos productions pendant le temps des sucres. Alors, c'est un assemblage de sirop d'érable et d'eau d'érable. Étant donné que l'eau d'érable ne se conserve pas très bien, l'idéal, et puis pour avoir une belle fermentation, puis que tout se passe bien, puis d'avoir un produit sur la fraîcheur, l'idéal, c'est de faire un bon vin d'érable dans la période du temps des sucres, avec une eau d'érable qui est fraîche, assemblée avec du sirop d'érable. On a déjà essayé de faire des vins d'érable issus de déduit. C'est l'eau d'érable que l'on fait bouillir à mi-chemin avant de se rendre en sirop. Le défi, c'est que les arômes de l'érable typique se développent de 60 à 66 brix. Alors, les brix, c'est les pourcentages de sucre. Alors, c'est vraiment dans les derniers degrés d'ébullition que l'on va retrouver tous les arômes de l'érable. D'où l'intérêt. C'est un peu particulier. On a l'impression de travailler en double. On part de l'eau d'érable, on le fait concentrer en sirop d'érable et par la suite, on le réassemble avec l'eau d'érable pour revenir au réduit initial. Mais on est quand même complètement ailleurs et c'est là qu'on a vraiment un vin d'érable qui goûte l'érable.
Je vous recommande fortement de goûter le cidre de feu. Comme le disait Louis Desgroseillers, on se retrouve dans un spectre de goût bien différent du cidre de glace. Et les surprenants vins d'érable, laissèrent-on à la fin du repas?
On est porté à penser qu'un vin fait à base d'érable, c'est automatiquement quelque chose pour le dessert.
Pas du tout. En fait, oui, c'est possible d'en faire un dessert, donc de le rendre un peu plus liquoreux. Mais dans le cas présent, notre vin d'érable, il est sec, en fait. Sec à demi-sec. Alors, on parle d'environ moins de 10 grammes de sucre résiduel. Je dirais autour de 5 à 8. C'est très semblable au vin blanc habituel, demi-sec. Alors, il faut tout simplement laisser les levures travailler un peu plus longtemps et tous les sucres vont se faire digérer, vont se transformer en alcool. C'est possible. C'est pas nécessairement sucré. C'est vrai que la plupart des dégustations que l'on fait, le client va avoir deux prédispositions. La première, c'est conséquemment, ça va goûter bon parce que c'est issu de l'érable. Et deuxièmement, c'est peut-être un peu plus sucré, mais le deuxième questionnement n'est pas nécessairement vrai.
Vous en faites combien de vin ou d'alcool?
Assemblage.
Oui. À partir de vin d'érable ou avec du vin d'érable?
D'année en année, on augmente parce que la popularité augmente et puis la demande, elle est là maintenant. Avec l'ouverture des marchés, on a la possibilité de vendre dans les grandes surfaces. Alors, on peut vendre dans les GA, les métros, les boutiques de spécialité, les restaurants, tout ça, en plus de vendre déjà en SOQ. Et on exporte quand même des quantités qui sont importantes en France. En tout et partout, par année, on est peut-être autour de plus ou moins 80 000 bouteilles d'alcool d'érable. Ça s'ajoute également notre production de cidre. S'ajoute également notre production de vin issu de raisin. Alors, on foisonne à plus ou moins de 100 000 bouteilles par année.
Donc, on va quitter l'érablière comme telle. On va aller faire un petit tour à la cidrerie.
Oui, qui est vraiment juste à côté.
La cidrerie, oui, mais en fait, la salle des cuves, le chai, pas seulement pour les cidres.
Il y a des cuves, on voit pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent bon.
Ça sent bon, c'est, on est en pleine fermentation, en fait, actuellement, de notre rosé érable framboise. C'est un assemblage d'eau d'érable et de sirop d'érable encore, donc une base qui est semblable au vin d'érable, auquel on ajoute des framboises de notre propre production. On est producteur de framboises biologiques également. Alors, pendant la fermentation, on y ajoute des framboises. Préalablement, la framboise, elle est macérée dans le sirop d'érable. Et donc, c'est l'assemblage du sirop d'érable et de la framboise bien macérée que l'on ajoute pendant la fermentation du vin d'érable. Et là, on se retrouve avec un produit bien rosé, très aromatique sur pomme-grenade, le melon d'eau, on a de la framboise, on a des mûres, on a tout ça mélangé avec des arômes de l'érable. Donc là, on est en pleine fermentation actuelle. Ce sont des cuves assez hautes qui vont jusqu'au plafond, des cuves qui sont utilisées pour la fermentation, comme une chemise de glycol qui passe entre les parois. Et donc, le glycol a la propriété, évidemment, d'être climatisé, réfrigéré ou d'être chauffé. Alors, pendant les fermentations, c'est très important de contrôler les températures parce que lorsque la levure transforme le sucre en alcool, il y a création de CO2, dégagement de CO2. Donc, c'est ce que l'on sent en ce moment, le CO2, la fermentation. Et il y a création de chaleur, dégagement de chaleur. Alors, la double paroi, donc le glycol qui est à l'intérieur, se fait réfrigérer, climatisé par des compresseurs, et ce qui fait que la température, elle est bien contrôlée durant cette étape-là qui est très, 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 très importante.
Mais il n'y a pas que ce vin d'érable à la framboise. Il y a d'autres choses. Il y a plusieurs cuves. Là.
Effectivement, c'est des cuves qui peuvent accueillir plusieurs types de produits. On a deux petites cuves à notre droite de 3300 litres. C'est des cuves de vin rouge parce qu'il y a des portières dans le bas de la cuve qui nous permet d'accéder aux mares de raisin, donc à la pulpe et tout ça après différentes étapes. Puis pour les autres, c'est des cuves qui peuvent recevoir autant du vin blanc que du vin d'érable, un produit qui va éventuellement être effervescent ou des vins style dessert un peu plus liquoreux, cidre de glace, liquoreux d'érable, cidre de feu. tout ça peut être dans les mêmes cuves, des cuves qui sont séparées. C'est des cuves d'environ 9000 litres. Il y a, disons, pour à peu près 50 000 litres de cuverie au total ici dans la cidrerie, puis juste à côté dans le deuxième espace.
Un mot sur vos vins à partir de raisins. Dans le blanc, vous avez quel cépage?
Les cépages que l'on entend parler de plus en plus, donc c'est des cépages que l'on dit rustiques, on parle de Frontenac. Alors, le Frontenac est assez versatile. Il y a trois variantes de Frontenac. Le Frontenac blanc, pour faire des vins blancs. Le Frontenac gris, qui peut être utilisé pour faire du blanc, mais qui peut être également utilisé pour faire des vins rosés ou des vins gris. Et finalement, le Frontenac rouge, donc le Frontenac noir pour les vins rouges. Alors, c'est le cépage principal de notre vignoble. Il y en a d'autres également. On parle de Saint-Pépin et de Petite-Perle. Encore là, des cépages qui sont rustiques. Rustiques, ça veut dire quoi? On peut dire qu'il y a trois grandes catégories de vignes implantées au Québec. Il y a évidemment les vinifera que l'on connaît un peu plus. On parle de Riesling, on parle de Merlot, le Pinot, le Cabernet Sauvignon, et on en passe, Chardonnay et tout. Il y a le semi-rustique Maréchal Foch que l'on entend un peu plus parler. On parle de Vidal. Donc, c'est des cépages qui peuvent se rendre jusqu'à moins 10, moins 15 degrés Celsius pendant l'hiver. Tandis que le vinifera, lui, va se rendre jusqu'à à peu près plus 5, 0, des fois moins 2. Puis, donc, en dessous de ces températures-là, la vigne, elle ne passe pas au travers de l'hiver. Alors, c'est des températures qui sont bien particulières. Nous, ce que l'on a implanté, ce sont des rustiques qui peuvent aller jusqu'à moins 15, moins 20. Alors, c'est des cépages qui ont été développés au Minnesota, qui ont des extrêmes de température semblables aux nôtres. Et c'est cette raison-là bien particulière pour laquelle on a décidé de les implanter. Alors, c'est des cépages qui, quand même, peuvent résister autant au froid et très résistants aux maladies et aux insectes également. C'est la raison pour laquelle que notre vignoble, aussi que notre verger, est biologique. Parce que les conditions de positionnement à Saint-Isaure, c'est favorable, c'est toujours très venteux. On a des terres qui sont fertiles et facilement cultivable, et parce qu'on a des cépages qui sont très résistants à plusieurs intempéries, puis aux insectes et aux maladies.
Donc, j'ai bien compris, le vignoble et le verger sont biologiques.
Oui. En fait, on n'est pas encore cherché la certification en tant que telle. On pourrait très bien. On est en transition, en fait, actuellement, pour aller l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre de l'avant la qualité de nos produits, peut-être d'un point de vue un peu plus organoleptique, pas tant sur les méthodes culturales. Ça fait depuis le début que l'on cultive de façon biologique. Alors, pas d'intrants rajoutés au niveau des arrosages, pas de pesticides conventionnels et tout ça. On le fait pour nous-mêmes, bien au-delà de ça, étant donné qu'on est déjà producteur de fruits et légumes biologiques, pour nous, c'était tout à fait cohérent de le faire. Donc, nos alcools ne sont pas certifiés en tant que tels, mais au moment de l'autocueillette de la cabane à pommes, en ce moment, l'autocueillette se fait de pommes biologiques. Et le raisin qui est utilisé pour effectuer nos fermentations de vin rouge et de vin blanc, encore là, on parle de raisin biologique. On n'en parle pas nécessairement sur nos étiquettes et tout ça, mais on le fait plus pour nous que pour en parler. Si on...
Vous pourriez pas l'indiquer parce que vous avez pas la certification, mais votre régie est une régie biologique.
Tout à fait. Puis vraiment, on est bien placé pour le savoir. Là. On le produit, les fruits et légumes biologiques. On sait très, très bien c'est quoi d'aller chercher de la certification. Il n'y a pas de certification au Québec de vin bio en tant que tel, mais la façon que c'est présenté, c'est vins issus de raisins qui sont biologiques. Mais on est dans cette transition-là pour aller chercher cette reconnaissance-là. On le fait déjà. Donc, pourquoi pas le mettre de l'avant? Si ça peut avoir de l'importance pour certaines personnes, puis pour d'autres que ça n'en a pas, bien, on va continuer à le faire quand même. On ne le fait pas pour ça, là.
Les cidres aussi, c'est ici là, que vous les travaillez.
Oui, que ce soit donc ce que nous, on appelle des vins. Alors, tous nos vins d'érable, nos bulles, que ce soit les vins d'accompagnement de repas, les vins dessert ou nos spiritueux, se font ici à ce que l'on appelle la cidrerie ou le chai. Donc, le chai, C-H-A-I, c'est l'espace où se fait la fermentation, la vinification, la transformation, en fait, du mou en un alcool. Alors, que ce soit les alcools d'érable, que ce soit les cidres, donc alcool de pomme, ou vin issu de raisin, tout se fait ici à la ferme, à la cidrerie, qui est juste à côté, à l'œil, on voit très bien la cabane à sucre d'ici, là.
Et là, derrière vous, de beaux fûts de chêne. Qu'est-ce que vous avez dans ces fûts de chêne?
Bien, il y a beaucoup de choses, en fait. Oui, c'est du chêne, c'est du fût de chêne français. Alors, on aurait le choix d'y aller avec de l'américain, mais pour nos types de produits, puis pour le genre de produits que l'on veut faire, on a une préférence, une nette préférence pour le fût de chêne français. C'est des fûts qui ont préalablement reçu du raisin de Californie ou d'ailleurs. Alors, ça peut être du Pinot, ça peut être Cabernet ou du Syrah ou encore du Merlot. Des fûts de chêne français usagés qui ont déjà servi 2 à 3 ans, des fois 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la barrique, c'est comme une éponge. Donc, elle se retrouve vraiment très bien impacté par le raisin et particulièrement par le pépin. Alors, on a découvert que le pépin de raisin, qui est impacté à l'intérieur des parois de la barrique, va venir apporter structure et rondeur à nos vins d'érable. Alors, la plupart de nos produits, que ce soit le vin d'érable, que ce soit le cidre de glace, cidre de feu, liquoreux, vont tous séjourner dans la barrique un certain temps. Le temps est variable selon le produit et le type de produit que l'on veut faire. Notre vin rouge et notre vin blanc également. Donc, on a notre vin rouge 2016, sélection, qui, lui, a eu 6 mois en barrique. Et on a une cuvée, ce qu'on appelle la cuvée Marcel, qui est le nom de mon père. Donc, c'était un peu à son honneur. C'est comme une petite cuvée signature. On parle de plus d'un an de vieillissement en barrique. 1 mois en barrique équivaut pratiquement à 3 mois dans une cuve en inox. Alors, il y a vraiment une très bonne différence.
Selon le type de produit, selon la nature du produit, le passage en fût de chêne est plus ou moins long, donc?
Oui, si on veut un produit qui est un peu plus sur la fraîcheur, donc toutes les consommations courantes ou apéro, en général, on va y aller avec un vieillissement un peu plus court que si on recherche à créer un produit liquoreux, vin dessert ou encore spiritueux. C'est-à-dire que c'est des alcools qui en ont un peu plus, donc sont plus élevés dans leur teneur en alcool ou un peu plus élevés dans leur taux de sucre. Alors, c'est deux éléments qui font en sorte que ça supporte bien un vieillissement en barrique. Et la barrique, à l'inverse, leur apporte, disons, un avantage significatif. Alors, notre cidre de feu, par exemple, a vieilli pratiquement plus de 2 ans en barrique. Et donc, ça résulte d'un produit à la fin qui est très rond, qui est très agréable en bouche, qui a une belle longueur. Et puis, ça vient vraiment apporter, ça enrobe, ça apporte une belle structure au vin.
Vous en avez un?
Oui. Au total, en fait, à peu près peut-être 120 barriques au total. Alors, il y en a ici, il y en a dans un deuxième espace. C'est 120 barriques au total qui sont utilisées en rotation. On les achète usagées, qui ont déjà reçu du raisin. On y effectue également nos alcools, donc pendant à peu près 2 à 3 ans. Et puis finalement, on se retrouve à les revendre une seconde fois à des microbrasseries. Il y a beaucoup de microbrasseries qui sont très intéressées à recevoir une barrique qui a à son tour reçu de l'alcool érable ou du vin rouge ou un cidre de feu. Puis des fois même des distillateurs, donc des barriques qui ont reçu du cidre de feu sont très intenses, très aromatiques au nez, puis avec des arômes qui sont très volubiles. Et puis pour les distillateurs qui veulent faire des alcools un peu plus de spécialité, bien, c'est un choix de prédilection.
Et vous, éventuellement, vous en feriez des alcools distillés?
C'est pas impossible et beaucoup de nos clients nous posent la question. On sera en mesure de le faire. Ça, c'est sûr que ça prend les équipements pour y parvenir. Donc, on parle d'alambic et tout ça. On sera en mesure d'aller chercher l'expertise puis l'équipement. Pour le moment, on fait un apéritif. Donc, on parle d'un alcool qui est autour de 20 %. C'est un assemblage, par exemple, de notre liquoreux d'érable, qui est un vin dessert, auquel on y ajoute l'équivalent d'un whisky. On fait la même chose avec notre apéritif de feu, qui lui aussi est à 20 %. C'est notre cidre de feu qu'on l'assemble avec un whisky canadien. Ça donne un produit qui est similaire, disons, à un spiritueux, qui est également très intéressant, puis qui donc n'a pas besoin d'avoir eu le procédé de distillation nécessairement.
Éventuellement, ça mijote.
C'est dans nos visées. Disons, à chaque année, on arrive avec un nouveau produit. Certains sont mis de côté pour laisser la place à d'autres. Et donc, l'idée d'une distillation n'est pas exclue, pas du tout.
Ici Lionel Levac. Lorsque vous irez au domaine Labranche, vous pourrez vérifier l'étendue du choix des alcools de la maison. Et il y en aura d'autres, parce que Louis Desgroseillers et son équipe cherchent sans cesse de nouveaux procédés, de nouveaux assemblages. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Saint-Isidore de la Prairie, vous trouverez plusieurs des bouteilles Labranche dans des épiceries ou encore à la Société des alcools. Au revoir.